Bienvenue à Objectif numérique, épisode numéro 15. Nous allons répondre, comme à l'habitude, à vos questions. Nous allons discuter sur la façon de se monter un studio de photographie à la maison. Nous allons aborder la controverse Instagram qui a eu lieu en décembre. François va nous faire la critique d'un micro pour appareil photo. Je vais aussi vous parler des appareils qui ont été présentés depuis le début de l'année 2013. Alors, l'équipe habituelle est présente. Bonjour François.
Salut.
Bonjour Christian.
Salut.
Et nous avons un invité aujourd'hui, Mathieu Genet.
Allô.
Et Mathieu, c'est lui qui va venir nous parler sur la façon de s'équiper pour monter un studio de photographie à la maison. Alors, on y va tout de suite avec une question de Grégoire Cotte via Twitter. Il nous avait posé une question, il voulait savoir s'il y avait des logiciels qui pouvaient insérer une signature avec logo sur des photos, autrement dit des watermarks en anglais. Alors, Christian va nous éclairer sur la question.
Mais pour ce qui est des watermarks, il y en a plusieurs, des logiciels. Évidemment, bon, les gros logiciels, que ce soit Lightroom, Aperture, te permettent de le faire dans le logiciel même. On a quand même fait quelques recherches pour essayer d'en trouver d'autres, voir... On a trouvé Visual Watermark, logiciel PC Mac. Il y a quand même, tu sais, ça peut être intéressant. On parle d'environ 20$ pour un ordinateur pour la licence. C'est quand même pas si mal. Si vous voulez l'essayer, il y a un essai de 7 jours. Win Watermark, qui, malgré le fait que c'est marqué Win et bien PC et Mac. Par contre, il est un petit peu plus cher, il est 50$. Je vous avouerai que, bon, on n'a pas regardé vraiment toutes les options là, en détail. Là. On a juste cherché quelques logiciels d'un côté puis de l'autre. Là. J'ai pas. Moi, j'utilise pas vraiment de watermark, mais les quelques fois que je l'ai fait avec Aperture. Fait que
oui, c'est ça, parce que les logiciels Lightroom, Aperture. Permettent d'ajouter des watermarks, des signatures automatiquement là, quand on exporte nos photos. Là.
Exact. Puis il y a même une solution gratuite, si vous voulez, avec Windows Paint. On mettra c'est un petit tutoriel comment le faire.
Avec Paint qui vient avec Windows?
Oui, oui.
Okay. Ben, c'est très, très basic, contre, là, c'est
très ouais, mais je l'ai regardé vite, qu'est-ce qu'il faisait. Puis honnêtement, ça fait le travail. Là. On n'a pas besoin de plus que ça. Si vous voulez pas dépenser... On n'a pas besoin de plus que ça.
Mais en fait, moi aussi, j'ai pensé au site Pixlr dont on a parlé à l'épisode 7.
Oui.
Donc, pixlr.com, qui ressemble beaucoup à Photoshop. Il y a possibilité d'ajouter une couche semi-transparente ou un truc du genre, ou tout simplement une couche avec soit du texte ou une signature avec logo. Puis c'est tout à fait gratuit.
Ouais, c'est ça. Puis il y en a même un autre aussi qui est Umark de la compagnie Uconomix, qui lui est gratuit sur PC et 29$ pour Mac. Il y a des essais pour... Tous ces logiciels-là ont des essais, fait que vous pouvez le voir.
Mais pourquoi charger pour Mac et pas pour PC?
C'est une excellente question.
C'est la taxe idée. Apple dont on
ça
parle.
Ça, oui.
La taxe de la secte? Non, bon, excusez-moi.
C'est des blagues.
Hey. Non, mais non, je sais pas. Garde. Le pire, c'est que c'est surprenant parce que normalement, il y a beaucoup. Probablement que si j'avais pu chercher un peu plus, là, j'aurais peut-être été capable d'en trouver. Même souvent, sur Mac, il y a des logiciels qui viennent de Linux, qui sont gratuits, qui ont été comme portés ou des affaires comme ça. Faites vos recherches vous-même aussi, de toute façon, je vous le dis, il y en a plus qu'en masse. Ça, c'en est quelques-uns là, qu'on a checké qui avaient l'air pas si mal, là, mais on les a pas essayés malheureusement, vraiment, mais je...
On va
si
en
vous envoyer
une bonne douzaine dans les notes d'épisode de toute façon. Donc,
si vous avez des suggestions de quelque chose que vous utilisez, bon, à part Aperture ou Lightroom, gênez-vous pas, envoyez-nous-les. On rajoutera après... dans les notes là, que personne ont proposé tel logiciel ou tel logiciel. On verra.
Absolument.
D'ailleurs, par rapport à... On parle du retour par rapport à des critiques ou des commentaires qu'on a fait. J'en ai eu une de... c'est Yannick Lavoie qui nous m'a envoyé une question parce que je parlais du Canon 6D au dernier épisode. Puis en tout cas, il était sous l'impression... Ben, il se demandait un peu pourquoi que j'avais pas l'impression d'être emballé par l'appareil. Puis dans le fond... Ce que je voulais lui dire, c'est ce que je lui ai répondu, en fait, je devrais dire, c'était une question par courriel, c'est que l'appareil 6D est un très bon appareil. Mes réserves par rapport à cet appareil-là, c'est que vraiment, Nikon, dans cette catégorie-là, pour le D600, je trouve qu'il a l'air supérieur. Si on voit certaines des limitations que le 6D a, exemple, les 11 points d'autofocus, c'est parce que mon 7D en a 18, puis c'est pourtant un modèle qui est en dessous. Il n'y a pas de flash interne. Encore une fois, mon 7D en a pas le 6D. Le viseur est juste 97% de la... Il couvre 97% de l'image, alors que mon 7D en couvre 100. Il y a un plus petit écran. Tu sais, c'est rien de majeur, entendons-nous. Je veux dire, rien qui empêche d'avoir un bon appareil ou rien de ça. C'est juste... OK, pourquoi? C'est des décisions qui sont complètement arbitraires, qui n'étaient pas nécessaires. Canon n'avait pas le besoin de le faire, mais ils ont décidé de faire ça comme ça. Mm. Puis si on regarde, ben... Le D600 a plus de points d'autofocus, qui est le même système, je crois, si je ne me trompe pas, que le D800. Il y a un flash interne, l'écran est plus grand, le viseur est 100%, puis il y a même deux emplacements pour des cartes mémoire. Fait que, si on regarde les deux, là,
mais honnêtement... Mais il n'y a pas de Wi-Fi puis de GPS.
Ben, c'est ouais. Intéressant. Non, mais
ça dépend
c'est vrai.
Des besoins aussi.
Ça dépend des besoins. Ça peut être très intéressant. Le problème avec le Wi-Fi et le GPS, c'est que ça draine la batterie.
Oui, absolument. Mais je me faisais fait juste que... l'avocat
mais
du
non,
diable.
Mais non, tu as raison. Que... Ben, tout comme... Puis encore là, c'est parce qu'il n'y a pas encore de critique là, très, très poussée, mais la performance ISO de la 6D, du 6D a l'air meilleure que celle du D600 parce que bon, il se rend un petit peu plus loin, il y a quelques affaires de plus. Fait que, encore une fois, je sais pas. Je sais qu'il y a ben, un de nos anciens invités, Rémi Saint-Onge, qui vient de s'en acheter un. Mm-hmm. Puis j'ai vu des photos à 12 000, ISO 12 000, et j'étais impressionné qu'il n'y avait pas beaucoup de points. Là. Vraiment, là, c'est assez impressionnant. Mm. Fait que c'est sûr que tout dépend de qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous en voulez. Est-ce que c'est un mauvais appareil? Vraiment pas, ça risque d'être un très bon appareil. Mais dans ce cas-ci, pour moi, je trouve que l'équivalent Nikon a l'air bien meilleur. Si, moi, vraiment, entre les deux, là, puis même que si je m'abuse, il est un petit peu moins cher. Je pense que 100$ ou 150$.
Pas trop, là.
Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a 150$ de différence entre les deux. Là. Mm-hmm. Donc, c'est pas vrai. Mais si vous avez pas ni l'un ni l'autre, moi, je regarderais peut-être un peu plus le Nikon que le Canon pour une fois. Fait que ça, mm-hmm. Tout est dépend. Là. Encore une fois, ça revient toujours à essayez-le, faites-vous votre idée. Là.
Ouais.
Mais c'est ça. Fait que je voulais juste faire cette petite précision-là. Je pense que ça pourrait peut-être aider quelques autres personnes aussi. Là. Fait que, c'est ça.
Excellent. Bon, on va maintenant aborder la question de la photographie de studio, mais à la maison. Comment s'équiper? Comment... Quoi acheter pour débuter en photographie de studio à la maison quand on veut pas débourser des sommes astronomiques parce que l'équipement peut finir par coûter très très cher.
Ça va très vite.
Alors je cède la parole à Mathieu qui va vous présenter ça.
Bon, tout d'abord, lorsqu'on veut faire un studio à la maison, il faut quand même débourser de l'argent. Il faut être honnête, là, ça prend pas juste un ou deux items en plus de la caméra. Il y a beaucoup de choses à faire, à aller chercher. En premier lieu, il va avoir à aller chercher un fond de scène qu'on appelle aussi backdrop en anglais. Que ça, il y en a plusieurs types. Il y en a en papier, il y en a en tissu. Et chacun, il va en avoir avec des fonds unis et avec des fonds avec des thèmes.
As-tu essayé les deux?
Oui, j'ai essayé autant les tissus et les
et le papier. Moi, j'avoue, les quelques sessions que j'ai faites en studio, c'était toujours du papier que j'ai beaucoup apprécié travailler avec. Je sais pas, je me suis fait dire, le tissu, des fois, ça peut être des problèmes de luminosité, ça peut faire des reflets, des affaires un peu plus fatigants que le,
des
que
plis,
le papier.
Peut-être.
Ouais, ouais, des
tout
plis.
Tout à fait, les plis, okay. C'est la pire des choses à travailler avec parce qu'il faut vraiment bien les entretenir, il faut les repasser. Mais l'avantage du tissu, c'est qu'on n'est pas limité à 9 pieds. Parce que lorsqu'on
bon
est
point.
en papier, nous avons accès à des backdrops, des fonds de scène de 4 ou 9 pieds en général. Ce qui fait que rapidement, on devient illimité. Quoi qu'avec 9 pieds, on peut faire...
C'est quand même assez large, 9 pieds. Là.
On peut faire un bon plan pied.
Et pour nos auditeurs français, 9 pieds, ça équivaut à environ 3 mètres.
Oui, bon point.
Fait que ça, c'est la première chose à aller se procurer. Mais une fois qu'on a notre fond de scène, il faut avoir notre support pour notre fond de scène. Parce que c'est pas une personne qui va nous tenir. C'est vraiment un support ou des trépieds à fond de scène avec une tige qui va l'insérer. Ou bien, il y a pour ceux qui ont plus de budget, directement des supports qui peuvent accrocher après leur plafond. L'avantage de ça, c'est qu'on peut plus facilement faire des switches entre chacun des fonds de scène. Par exemple, en avoir trois directement qui sont installés, un blanc, un gris, un noir, mm-hmm. pour pouvoir faire le changement très rapidement au lieu d'enlever et de replacer à chaque fois les nouveaux fonds de scène. Mm-hmm. Donc pour ça, c'est avantageux, mais pour là, déjà, il faut déjà débourser beaucoup plus. Il faut aussi d'autres trépieds. Il faut des trépieds, pas pour la caméra, parce que normalement, on va tout le temps être à la caméra main libre, mais pour les flashs. On oublie souvent que la première raison qu'on utilise un fond de scène, c'est pour contrôler à 100% tout son environnement. Mm-hmm. Donc, on va utiliser plusieurs flashs, mais pour ça, il faut avoir les trépieds pour tenir les flashs. On ne va pas demander à une personne de le faire. Donc, il nous faut nos trépieds et, bien sûr, nos flashs. Il y a deux types de flashs qui vont être beaucoup utilisés. Il y a les grosses têtes de flash qu'on connaît, par exemple, de Profoto ou bien de Paul C. Buff avec les Alien Bees, que eux, c'est des flashs très puissants. Mais, par contre, le problème de ces flashs-là, c'est qu'ils coûtent sont plus dispendieux que les flashs, les speedlights ou les flashs Cobra. Mais la différence entre les deux, pourquoi j'utiliserais un flash Cobra plutôt qu'une grosse tête de flash, c'est les possibilités qui nous sont offertes un après l'autre. L'avantage des speedlights, c'est que c'est beaucoup moins dispendieux. Mm-hmm. On prend notre trépied, on met nos flashs, on les synchronise soit par le déclenchement ou d'autres fonctionnalités selon la compagnie, et on est parti en affaires. Par contre, pour ce qui est de l'équipement qui vient tout autour des flashs, à ce moment-là, on a beaucoup moins de possibilités.
Ouais.
Parce que la seule possibilité qu'on peut acheter en magasin pour les speedlights, ce sont des parapluies. Qui se font souvent...
Ils ne font pas de softbox, j'imagine vraiment. Il y a probablement moyen de s'arranger des choses, là, mais c'est
on
pas...
On peut s'arranger des choses,
si vous êtes bricoleur un peu.
C'est homemade.
Ouais, c'est ça.
Après ça, avec les flashs, là, on parle. Là, on a des softbox, on a des beauty dishes.
Qui est?
En fait, un beauty dish, c'est un gros cercle de métal
qui est
reflété avec un cercle au centre qui reflète et qui envoie ça. C'est excellent pour la photographie de portrait. Mm-hmm. Même ils disent, c'est pour ça qu'on dit un beauty dish, c'est pour la beauté du portrait. C'est l'équipement Barbie parfait pour un flash qu'on peut mettre dessus et faire pour faire du portrait. C'est magique, ça fait... C'est directement entre le softbox et le parapluie. Ça fait un très léger dégradé, mais pas trop hard ni trop soft.
OK. C'est un genre de diffuseur?
C'est un diffuseur, okay, oui. Parce que la différence entre le parapluie et le softbox, c'est que le parapluie, ça fait des ondes très dures,
mm-hmm.
et le softbox, très soft.
Ouais.
C'est très un beau gros dégradé. Okay. Mais des fois, on cherche pas une ombre qui est directe, qui va couper directement au nez, mais qui va s'en aller un tout petit peu légèrement. Mm-hmm. À ce moment-là, le beauty dish, c'est fait pour ça.
Parfait.
Toi, t'es équipé comment? T'as-tu des flash Cobra ou t'as des têtes...
Moi, je me suis équipé en flash.
OK.
Mais pour la simple raison, c'est pour les possibilités.
Mm-hmm.
Parce que qu'on s'en aille à l'extérieur ou à l'intérieur, le monde va dire, je sors un peu du sujet, vont dire, ouais, mais on peut pas l'utiliser à l'extérieur, c'est impossible, il faut beaucoup d'énergie pour contrôler les flashs. C'est vrai, mais il existe beaucoup d'accessoires à l'extérieur qu'on peut utiliser pour les flashs. Moi, personnellement, j'ai une batterie que je peux me brancher deux flashs dessus par batterie et faire à peu près 200 shots avec.
OK.
OK.
Fait qu'à partir de là, je peux être à l'extérieur et à l'intérieur. C'est sûr que là, on parle d'équipement qui...
Oui, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, on parle de studio maison assez équipé, là, rendu là, là, tu sais.
Ouais, moi, disons là, que... c'est plus un studio maison, je dirais. Là,
ouais, mais tu dis ça, mais non, en même temps... Tu sais, moi, je m'étais informé parce que moi, j'en loue fréquemment des... Ben, ça fait un bout de temps, là, mais on va chez Lozo, puis je loue ça. Ça coûte, mettons, 50$. T'as deux flashs, softbox, puis parapluie. C'est ce qui est, honnêtement, bien en masse pour beaucoup de setups que tu peux faire. Tu payes 60, t'en as 3. Fait que, je veux dire, c'est en masse, là. Ouais. Pour faire des tests, des choses, tout ce que t'as besoin, tu vas l'avoir avec ça. Mais je m'étais informé pour en avoir, puis j'avais trouvé Alien Bee, la compagnie que tu disais. Moi, j'avais un prof de photo qu'ils utilisaient, qui est professionnel, puis qui les aimait beaucoup. Puis pour deux flashs, deux trépieds, un softbox, puis un parapluie, ça me coûtait 800. Ce qui n'est pas si mal. Je veux dire, c'est pas donné. Non, acheter.
OK.
Acheter.
OK, parce que tu parlais de location tantôt.
Non, oui, c'est vrai. T'as bien fait de le préciser. Non, acheter. Non, la location, c'était 50$ ou 60$. Ben, faut que tu donnes un dépôt, là. Mais, mais c'est ça, c'était 800. C'est pas si mal que ça, honnêtement. Quand tu considères qu'un bon flash Cobra, est, combien il t'a coûté, toi? C'est 400-500 qu'il a coûté?
Oui, autour de 450.
Je trouve pas ça si pire que ça, moi.
Mm-hmm.
Puis l'affaire, c'est que, bon, le seul problème, ben, il n'est pas mineur, c'est que c'est en argent américain. Bon, là, vous allez me dire, bon, surtout au Canada, nous, le taux de change est très bon, sauf que c'est les douanes.
Oui.
Et surtout, non négligeable, le shipping, la livraison, les frais d'exposition qui étaient abominable. Je pense que ça me coûtait 300$ de plus à cause de ça. Sauf que j'avais trouvé une chose qui est... on peut les faire livrer aux États-Unis, tu vas les chercher là, puis ouais, t'économises les frais de livraison. Là, si vous voulez les passer sans payer les douanes, ça, c'est votre choix, là, mais c'est une des façons que beaucoup de monde font, oui.
Mm-hmm.
Mais si, par exemple, je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut se faire vraiment un début de studio maison, là, tu sais, je connais pas l'équipement, tous les noms que t'as dit tantôt, ça me dit rien pantoute, mais j'ai un ami qui me disait hey, « ma blonde est enceinte, puis j'aimerais savoir des petites photos de couple avec ma blonde, puis tout ça ». Mais tu sais, j'ai une caméra normale, là, mais je veux juste une belle lumière. Ou tu sais, qu'est-ce que j'ai de besoin d'avoir, mais vraiment de base, là, tu sais. Pas pour faire de la photo que je vais revendre, là. C'est pour mon ami, puis il va être bien content d'avoir une photo qui a deux flashs, mettons, là, tu sais.
Lou?
Le best, c'est vraiment de louer, parce que si on fait pas ça régulièrement, faire la photographie, même si on dit que c'est pas si cher que ça, dès qu'on commence à faire de la photographie de studio, les prix augmentent très rapidement.
Okay.
Parce qu'il n'y a pas vraiment de très basse qualité. Si on prend des très basses qualités, on prend des accessoires qui sont juste en plastique et qui brisent très rapidement. Ça vaut pas la peine de payer. Fait que oui, il faut investir. C'est un investissement à faire un studio maison.
Okay.
Et juste pour une des raisons. Lorsqu'on fait un studio maison, il y a une chose qu'on oublie toujours. Il faut de la place.
Ouais, il faut se réserver une pièce pour ça, ou en tout cas aménager une pièce temporairement pour avoir assez d'espace. Là.
Et c'est pas une petite pièce qu'il faut prendre. Si on calcule, mettons que je veux me faire un studio pour pouvoir prendre des pleins pieds, et j'ai besoin en partant d'un fond de scène de 9 pieds. Après ça, à ce 9 pieds-là, il faut que je rajoute mon support qui est à côté et qui sort. Donc là, on monte à peu près à 12 pieds. Et après ça, il faut penser aussi, mon modèle va pas être collé à mon fond de scène. On laisse au moins une distance de 4 à 6 pieds.
Mm-hmm.
Donc là, de la scène, la salle en soi, on monte à des grandeurs qui vont... Tu sais, c'est plus grand qu'un salon, souvent les studios, là. Moi, personnellement, j'ai pas mon studio maison. Lorsque je m'en vais faire des shootings professionnels pour des humoristes, ou vous ayez des personnes qui ont besoin de quelque chose en particulier, qui veulent investir, je me loue un local de 1200 pieds carrés. Pour avoir ça, d'avoir de la place. Aussi, ce qu'on pense pas souvent, c'est les plafonds. On se dit, ah, dans ma salle, je suis en masse, et ainsi de suite. Oui, lorsqu'on est en studio de base avec des speedlights, mais dès qu'on arrive avec des softbox et des gros parapluies géants, on a le 9 pieds se peut assez, et des fois, on veut même la lumière qui vient directement au-dessus du sujet. Donc là, des plafonds de 12 pieds, c'est encore très bas. On espère avoir presque un loft pour faire du studio. Donc, lorsqu'on parle d'un studio de maison puis qu'on veut économiser, c'est une question à se poser. On est mieux de louer si on veut pas mettre beaucoup d'argent, et lorsqu'on en a besoin, de le louer. Mais sinon, si on se rend compte qu'on en fait régulièrement, on est mieux d'acheter.
Ouais, c'est sûr.
Parce qu'il y a aussi une autre affaire qu'il faut pas oublier, c'est les wireless flash trigger, ou les remote à distance.
Les contrôleurs, ou les déclencheurs.
Les déclencheurs à distance. Déclencheurs à distance, exactement. Parce que nos flashs, lorsqu'on a des speed lights, on peut déclencher directement avec en fonction de notre équipement. C'est Canon, Nikon, ils ont leur fonction chacun.
Mm-hmm.
Mais lorsqu'on a des flashs, ils sont autant fonctionnels avec des Nikon, des Canon, des Sony, toutes les marques. Fait qu'il faut avoir quelque chose qui va toutes les partir ensemble. Puis si on en a un, c'est pas si pire, on peut brancher un fil et dire à l'appareil à quel moment qu'on déclenche. Mais si j'ai trois flashs...
Je l'ai fait jusqu'à trois flashs avec des fils. C'est fatigant parce que ça fait beaucoup de filage, là, mais je veux dire, quand tu t'arranges comme il faut, tu le fais en arrière, tu t'arranges pour pas que tu piles dessus, tu avoir des fils assez longs, mais ça se fait.
Ça se fait?
Mmh. Ouais.
Ah, ben, moi, personnellement, je n'utilise pas ça.
Non, ben, toi, tu les as. Moi, comme je disais, j'ai Lou, fait que... Quand tu les loues, exemple, comme je disais, chez Lozo, ils te donnent tout ça. Okay. Fait que t'as pas besoin de rien faire, t'as tout le filage que t'as besoin. Exactement,
de
oui. Okay. Puis...
Mais sinon, avec les remotes à distance, ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment tout installer nos lumières et ne pas avoir de fil.
C'est ça, c'est moins encombrant. C'est
beaucoup moins encombrant. Et selon moi, avec le mien, je peux brancher jusqu'à 16 flashs et les contrôler indépendamment directement de mon système.
Mm-hmm.
J'ai pas besoin d'aller en arrière et les ajuster un par un. Fait que ça, c'est très pratique. Le monde, ils me disent, c'est
pas paresseux. On sauve beaucoup de temps.
Oui, mais combien ça coûte un truc du genre pour contrôler 16 flashs?
ça dépend. On peut en trouver vraiment des basics.
J'en ai vu plein. Si vous voulez pas dépenser, eBay reste une place incroyable. Ce que tu peux en trouver, c'est pas la qualité, mais ça fonctionne.
Et ça peut se trouver à 60$ facilement.
Mm-hmm. Okay.
À 60$, on peut mais il faut pas oublier qu'il faut aussi un receiver, un pour le flash, pour chacun des flashs, que ça, c'est à peu près une trentaine de dollars en moyenne.
OK.
C'est quand même pas si mal, là, dépendant. Comme toi, mettons, si t'en as 3, ça veut dire qu'on parle de 150-200 environ. C'est pas si pire, là.
Puis après ça, on peut aller dans les plus hautes gammes, que là, on commence à les contrôler à distance. L'avantage de tout ça, c'est qu'une fois qu'on a tout fait notre setup, on veut pas redescendre ou remonter notre flash, surtout lorsqu'on a déployé notre trépied au maximum. Par exemple...
Juste pour aller l'ajuster, là.
C'est ça, que aussi, sur les trépieds, on peut avoir des bras qui sont vraiment au-dessus de la personne. Donc là, on veut pas le descendre, le remonter, le redescendre, le remonter. Pour l'ajuster, fait que directement de son trigger, on l'ajuste. Et là, on peut voir aussi sur les gros flashs, là, on parle pas des speedlights, ils ont ce qu'ils appellent des lampes de modeling, des modeling lamps, que ça, c'est juste une lumière qui est envoyée sur le sujet pour démontrer qu'est-ce que ta lumière va faire.
Mm-hmm.
Fait que si,
au lieu... Mais à plus basse intensité, par exemple.
Ça, j'allais dire, assez... faut pas t'étudier à ça complètement parce que c'est pas mal, le flash est... potentiellement beaucoup plus fort que ce que cette lumière-là te donne.
Oui, mais ça te donne une idée quand même de l'ombrage que ça va créer. Puis,
Ah ben oui, la direction de la lumière.
Exactement, puis, ça va vraiment aller chercher. OK, cette lumière-là, elle affecte de telle manière cette autre lumière-là. Elle... C'est juste ça qu'on va regarder.
Écoute, pendant des années de temps, moi j'ai vu des photographes travailler avec ça, puis je pensais juste que c'était pour donner une lumière sur le plateau, pas pour comprendre la direction de la lumière, pourtant c'était évident, mais c'est bon. Parce je viens d'apprendre que... de quoi.
Bon, tu vois. Bon.
Moi, je m'en servais, excuse, parce que je suis là pour filmer. T'sais, moi, je faisais des du making-of et tout. Puis c'était parfait pour moi, même si c'était une lumière basse. Pour ma caméra, c'était une lumière constante.
T'sais. Oui, c'est ça. C'était ça lumière... permettait de filmer facilement.
Fait que ça me donnait une lumière de base, puis bien éclairée, tu sais, le sujet. Mais je pensais pas que ça servait au photographe pour... comprendre ses directions de lumière, mais tabarnouche, c'était tellement évident, mais que je suis bête!
Parce que on apprend des choses à tous les jours.
Parce que c'est très intéressant, parce que comme si on recule d'un pied notre trépied avec notre flash, ça va tout changer au complet la puissance de la lumière.
Ouais.
Et si on met un softbox plutôt qu'un parapluie, on va directement voir à qu'est-ce que ça va ressembler. Fait que là, on va gagner énormément de temps plutôt que faire pendant 15 heures de test. Parce que lorsqu'on travaille avec son ami puis qu'on apprend, c'est pas grave, ils vont attendre. Mais lorsqu'on est rendu avec des modèles qu'on a, par exemple, une heure de temps avec, on veut que ça roule.
Surtout quand il y a des enfants.
Exactement.
Avec des enfants, t'as pas une heure. T'as quelques minutes, quelques secondes.
Vraiment pas. J'en ai fait quelques shootings avec des enfants.
Ça, c'est un métier.
Faire
des photos avec des enfants, c'est un métier.
Fait que dans ce cas-là, on va utiliser la modeling lamp pour aller super rapidement. Mais avec les enfants, normalement, on utilise tout le temps les mêmes systèmes. On se restaure nos lumières et on les change plus après.
Mm. On utilise des jouets pour les distraire aussi entre temps.
La musique, ou bien on compte des jokes.
Ça devient les habiletés du photographe rendu là.
Comment
tu gères le côté humain, tu sais, comment quand tu vois un enfant qui commence à...
Exactement.
Ben, qui commence à, disons, être impatient, là, pour finir ma phrase.
Aussi, une chose qui est très, très pratique et qui coûte pas si cher que ça, mais qui vaut la peine, c'est des sacs de sable. Il n'y a rien de pire qu'un fond de scène qui tombe sur ton modèle. Ou une lumière qui tombe.
Ouais, c'est ça, un trépied qui est mal fixé.
Exactement, parce qu'il y a des trépieds qui sont abordables, qui sont à peu près une trentaine à une cinquantaine de dollars, qui font amplement la job. On n'en a pas besoin de plus.
Non.
Mais les trépieds sont beaucoup moins stables. Fait qu'en ajoutant juste une poche de sable autour, on s'évite de se payer 200$ un trépied.
Ouais, c'est un bon, très bon
truc. J'aurais jamais pensé à ça, mais
de sable, quoi, 4-5$ peut-être.
Exactement. Tu sais, pas obligé d'aller chez Lozo les acheter. Là, ils vont vendre les yeux de la tête. Allons chez Ronald Entrepôt, ils vendent bien moins cher.
Ils doivent vendre des sacs vides que tu remplis avec ce que tu veux.
Exactement. Fait que, tu sais, le seul but de ça, c'est de stabiliser tout son équipement pour pas que si, par exemple, il y a des enfants qui commencent à courir, qui accrochent un flash. Bang, il vient de péter, vous venez d'acheter le flash qui vous a coûté, par exemple, 300$, mais avec les shippings, vous a coûté 500$.
Les taxes et compagnie.
Exactement, fait qu'on monte un bill de 500$, et là, il vient de tomber, plus de lumière et il ne fonctionne plus. C'est un bon petit investissement, mettons, 20$ pour un sac de sable.
Ouais.
Bon puis, truc.
Ça t'évite aussi des poursuites possibles
pour blessures.
De la mannequin qui te coûte 1000$ de l'heure, que t'as juste pour une demi-heure parce qu'elle a un rendez-vous.
Juste un petit terme, là qu'on utilise, on dit jamais mannequin, on dit modèle.
Ah,
les modèles, c'est pour la photographie photo, et les mannequins, c'est vraiment pour les défilés.
Ah, OK.
Deuxième chose apprise aujourd'hui.
Et voilà.
Aussi, ça c'est un truc lorsqu'on fait du studio, lorsque vous travaillez avec du monde, pour être sûr de pas avoir de poursuites. Tu sais, par exemple, des agressions. Surtout les gars, on va toujours choisir des beaux modèles, là, on s'entend, là. On choisit vraiment la fille ou le gars. On ne touche jamais à son modèle.
Mm-hmm.
À aucun moment, on y touche. On a tout...
Même pas une petite caresse.
Non, ça c'est...
Non, mais il y a la poignée de main à l'arrivée au départ, exactement. Mais ça se limite à ça.
Ah, exactement. Ouais, comme ça, ça évite les poursuites. S'il y a quelqu'un qui doit placer les cheveux ou replacer le linge, et ainsi de suite, souvent, on va essayer d'avoir une maquilleuse-coiffeuse qui va être aussi l'accessoiriste.
Et témoin en cas de...
Ah, exactement. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Comme ça.
C'est triste, pareil, d'être rendu là d'un certain sens, honnêtement. Là, mais je comprends, là, t'as parfaitement raison. Là, mais tu sais, quand tu dis...
Mais oui.
En tout cas.
Après ça, lorsqu'on a tout ça... C'est là qu'on commence à s'équiper en softbox, en beauty, des choses et en parapluie. Mais après ça, on se dit « Ah, c'est fini. » Non, c'est pas vrai que c'est fini.
C'est jamais fini non, en photographie. Il y a toujours d'autres choses en photographie.
C'est sûr, ça. Là. On va prendre certains softbox parce qu'il y a différentes grosseurs de softbox et il y a différentes grosseurs de parapluie. Il y a des parapluies avec des fonds argentés, des fonds blancs. Mm-hmm. Il y en a avec des fonds noirs. Il y a les réflecteurs. Les réflecteurs, ça, c'est, selon moi, un investissement de 20$ que tout photographe devrait avoir.
Oui, mais ça se transporte très bien. Ça ne sert pas seulement en studio. On peut s'en servir n'importe où. Puis, il y en a aussi de différentes couleurs, justement, comme les parapluies.
Oui, normalement, le best à acheter lorsqu'on commence, c'est celui à 5 couleurs. Il y en a un blanc transparent, un or, un argent et un noir.
Mm.
Chacun a des utilités. Par exemple, le noir, c'est pour couper la lumière. Ça, c'est surtout utilisé à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur.
Mm-hmm.
Il y a l'argent et le doré, que eux, ils vont refléter la lumière souvent de deux manières différentes à cause de la couleur, justement. Le doré va être plus à l'extérieur et l'argent à l'intérieur. Le blanc transparent, il sert à faire filtrer la lumière qui rentre. Par exemple, si je suis à l'extérieur et je trouve que le soleil tombe trop fort, mais que je veux garder la lumière, je vais utiliser celui qui est transparent. Et le blanc, il coupe un peu plus la lumière que l'argenté et le doré. Mais même à l'intérieur, c'est toujours très, très pratique parce qu'on va aller le mettre juste en dessous et voilà, c'est parti.
Tu vois, moi, je dirais que c'est l'accessoire numéro un à avoir, carrément. Tu sais, pour n'importe qui fait de la photo... Avoir un réflecteur, même si c'est pas obligé d'avoir les 5, d'avoir au moins un réflecteur avec un côté blanc puis un côté argenté, puis tu peux partir en shooting extérieur puis contrer le soleil ou tu sais juste
pour la différence de prix là, tu sais sur Amazon on peut en trouver $20
eBay. Encore une fois, j'en ai trouvé un moi qui est à peu près c'est presque un mètre de diamètre. Il m'a coûté $5, je pense, shippé de Chine. Je te jure, moi, je me suis dit, $5, ça va être rien. Là, ça va être... Non, excellent. Puis j'ai j'ai juste pas le noir. J'ai les quatre autres que tu as dit, j'ai juste pas le noir.
Pour $5?
$5.
Avec le shipping, l'expédition incluse?
Inclus.
C'est qu'ils en expédient un conteneur complet de ça, là, puis ça leur coûte $1.
Ça coûte rien, dans le fond, quand tu y penses sincèrement à cette affaire-là. C'est un bout de... Tu sais, il y a rien là, puis il est très solide. J'ai été agréablement surpris. Je l'amènerai, si tu veux, à un moment donné. Juste te montrer, là. Je te jure, ça m'a coûté $5. Même moi, j'étais le premier sceptique en me disant, ça vaudra rien, là, oublie ça, là, tu sais, j'essaye. Très satisfait.
Fait, tu sais, c'est alors juste en prendre un à deux. Moi, je pense que c'est plus, ça vaut vraiment pas la peine. Faut vraiment aller à ça à 4 ou à 5 juste pour la diversité et pour le prix. Puis si on n'a pas d'amis pour la journée du shooting, ben on peut toujours acheter un trépied avec un support. Ça revient à peu près une trentaine à une cinquantaine de dollars. Fait que c'est vraiment un équipement de base à avoir chez soi.
Ouais. Moi, j'appelle ça un trépied mexicain. Un ami, là.
Et j'ai déjà joué ce rôle avec
François. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Mais tantôt, je parlais un peu de maquilleuse. On se dit tout le temps, « Hey, ouais, mais moi, j'ai pas de maquilleuse. » Un autre truc, il y a toujours des écoles de maquillage et de design. Ils cherchent toujours de l'expérience. Si vous ne voulez pas en payer, allez les chercher là, allez vous faire de nouveaux amis. Vous ne l'aimez pas, vous en changez et ainsi de suite. Comme
l'inviter à faire un stage.
C'est ça. Mais exactement, vous lui dites, écoute, moi je suis en train de monter mon portfolio, je suis prêt à t'aider à monter le tien. Tu peux prendre toutes les photos. C'est comme un donnant-donnant.
Les deux sont gagnants là-dedans. Là.
Exactement.
Il n'y a rien de mal à ça jusqu'au moment où tu te mets à faire beaucoup d'argent et que tu sais.
Exactement.
Là, il faut que tu donnes.
Là, ça devient une question d'éthique.
C'est
là,
ça, ouais.
Mais tu sais, moi, j'ai une entente avec toutes mes amis qui sont maquilleuses. Moi, personnellement, j'ai 4 amis maquilleurs, maquilleuses, dont certains qui sont vraiment pour le maquillage à base et d'autres de Make-up FX. Et ceux-là, ils ont j'ai une entente que si c'est un shooting, que c'est mon concept à moi, j'ai les gratos. Complètement aucune dépense. Ce que je fais souvent aussi, juste pour, puisqu'on en fait régulièrement ensemble, ce que je fais, c'est que je leur donne le maquillage que je vais utiliser. Juste ça, ils sont très heureux parce que des fois, c'est un petit rond de beige ou de noir ou de blanc qui va coûter 20$ chez Mac. Ouais,
un petit fond de teint.
Exactement. Puis eux, ils en ont toujours de besoin. Ouais. Fait que c'est comme leur manière de leur dire merci d'être venu et d'avoir servi d'accessoire reste en même temps. Ça coûte pas trop cher. Et même à ça, dans les débutants qui ont fini l'école, on peut s'en tirer pour moins de 50$ pour une session de 3 heures. Donc là,
pas mal, c'est bon. C'est un bon truc.
Fait que en bout de ligne, ça vaut vraiment la peine. Puis si, mettons, vous prenez du make-up FX, ça, c'est les gros maquillages, mettons, des zombies, mais vraiment avec des grosses plaies et ainsi
de suite. Des lambeaux de chair.
Exactement. Tu sais, là, on parle vraiment de... pas du maquillage que monsieur, madame, tout le monde fait. On parle à peu près de 3 à 5 heures que le modèle va passer au maquillage. Là, moi, je m'occupe toujours de payer tous les produits nécessaires. Et ça peut monter très rapidement, ça.
J'en doute pas.
Je m'étais fait un costume de zombie. C'était à peu près 200$ d'équipement.
Oh boy, quand même.
Oui. Mais wow. La différence, c'est que il y a des choses qu'on va réutiliser. Là. T'sais, c'est pas à 200$ juste un. Oui, ça fait cher sur le coup. Mais là-dedans, j'ai des choses pour salir le linge. J'ai du faux sang en grosse quantité industrielle. Là, ainsi de suite. Là, on va me dire, ouais, mais pourquoi acheter du faux sang? C'est simple, c'est qu'il y a beaucoup de types de faux sang et celui qu'on se fait à la maison, moi je trouve tout le temps qu'il y a tout le temps l'air fake.
Il n'y a pas la bonne consistance.
Exactement, mais lorsqu'on va en acheter, on peut en acheter de plusieurs consistances différentes et faire un très beau mix. Et c'est là que ça devient intéressant et il y a du faux sang comestible. Ça, c'est magique.
Ah oui, ben...
On met ça dans la bouche, ça coûte pas mauvais, tu sais, ça coûte la menthe. Puis après ça...
J'ai comme une drôle d'image là, de faux sang qui goûte la menthe. Là, ça fait étrange, vraiment. Là.
C'est ça qu'ils utilisent aussi au cinéma. Et c'est des petites capsules que dès que tu mords dessus, c'est
éclair. Ouais.
Fait que tu sais, il y a plusieurs manières. Tu sais, on se dit souvent, ah, ça coûte cher les grosses affaires. Qu'est-ce qui est cher? Tu sais, aujourd'hui, on s'entend à 200$, c'est raisonnable quand même. OK, c'est sûr que c'est pour un photoshoot. Et on va se dire, ah, c'est énorme au départ. Mais ça vient vite qu'on se rend compte que c'est raisonnable parce que si on veut sortir de juste du portrait régulier, qui est, à mon avis, le plus gros problème des photographes, tout le monde fait la même chose.
C'est vrai.
Ben, il faut investir un peu plus, il faut trouver des idées. On n'est pas obligé de dépenser 2000$ pour un photoshoot, mais il faut savoir mettre un peu plus d'argent pour arriver à quelque chose. Parce que juste prendre une maquilleuse avec un bon fond de scène puis ses flashs, ça va faire le jour et la nuit avec quelqu'un qui va arriver juste avec son petit flash sur son appareil photo et qui va prendre sa photo.
Absolument.
C'est vrai. C'est vrai.
Super. On a appris des choses. excellent. Merci beaucoup, Mathieu.
Il n'y a pas de problème.
Et maintenant, on va passer aux annonces d'appareils photo qu'il y a eu depuis le début de l'année. Évidemment, au tout début, il y a eu le CES, donc le Consumers Electronics Show.
J'aimerais donc ça y aller.
Oui, moi aussi, un jour, on ira ensemble.
T'sais. Ah oui, ok, parfait.
attendez-moi.
Et c'est ça, le CES, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se déroule à Las Vegas, aux États-Unis.
Oui, c'est le Consumer Electronics Show.
Oui, et voilà, donc évidemment, ça parle pas seulement d'appareils photo, ça parle de tout ce qui est gadgets, appareils, téléviseurs et compagnie, mais... Moi, évidemment, je me suis concentré sur la portion photo.
Ah, pourquoi donc?
Et j'ai aucune idée, en fait. Hein? Non, c'est l'inspiration du moment. Et j'ai choisi un appareil par manufacturier ou à peu près. J'ai deux Nikon. Donc, on va commencer par Nikon, justement. Nikon avec sa série 1 qui a présenté le J3. Donc, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, le J2 est arrivé sur le marché. Mais déjà, on parle du J3.
Puis déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre le 1 et le 2. Je sais, je les ai magasinés récemment pour une amie.
Ouais, quelques petites différences.
Il y a quelques affaires, mais c'est pas énorme en tant que tel. Je sais pas, le 3, si c'est beaucoup mieux.
Ben en fait, c'est ça. En fait, ils ont annoncé le 3, le J3 et le S1.
Ouais,
donc, le J3, bon, on parle d'un capteur 1 pouce qui est quand même assez gros pour un capteur de compact. Là, c'est ça. Ben en fait, c'est un hybride là, dans le fond, mais...
Bon, c'est pas très gros, disons.
Non, c'est ça. Et le S1, bon, en fait, lui, il a hérité du capteur du J1. Puis c'est un appareil où tout est simplifié. Donc, il y a moins de contrôle. plus automatisé. C'est ça, plus automatisé. C'est vraiment plus axé pour les débutants, mais qui voudraient se procurer quand même un appareil hybride. Et voyez-vous, du côté du J3, on parle de rafales de 22 images à la seconde. Du côté du S1, quand même 15 images à la seconde. C'est très...
C'est impressionnant.
Oui, c'est impressionnant. Bon. On parle de vidéos ultra rapides, mais évidemment à basse résolution. On peut aller jusqu'à 400 images par seconde en 640 par 480.
OK.
Et, wow. Attends. 1200 images à la seconde en 320 par 120. Donc, c'est vraiment minuscule, mais ça peut peut-être servir.
Tu peux faire des effets cool avec ça, je pense. Ouais.
Oui, mais, tout à fait.
En fait, on peut filmer seulement que 5 secondes en temps réel, mais 5 secondes à 1200 images à la seconde, ça en fait des images à traiter.
Écoute, c'est l'infini.
Oui. Donc, évidemment, bon, côté... dans ces appareils-là, il n'y a toujours pas de Wi-Fi. C'est en option avec un petit bidule qu'on branche là, à l'appareil. Mais ça, c'est disponible dès début février. On parle de 599 € pour le J3 et 479 pour le S1. Donc, un peu plus abordable le S1, mais peut-être moins de contrôle. Justement, il n'y a pas de molette pour sélectionner les modes, etc. Là, donc, ça peut être tout de même intéressant. Ensuite, il y a le Nikon D5200 qui est équipé d'un capteur Toshiba, alors qu'on avait un Sony avant dans le D3200. Il y a un autofocus à 39 collimateurs. Il a hérité de l'autofocus du D7000.
C'est très bon.
Oui. Puis il y a l'ergonomie du D3200 avec un écran tactile en prime. Donc, vous surveillerez pour ceux qui
sont... Proposition intéressante, très nutriente.
Oui, ça semble un appareil très intéressant, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est ceux qui vont surveiller les prix du D5100. Qui se fait remplacer, qui devrait baisser sous peu. On parle, je pense, 800 $ pour le boîtier en ce moment, donc le prix devrait baisser là, avec l'arrivée du 5200. Du côté d'Olympus, on a le TG2 IHS, lui qui est étanche jusqu'à 15 mètres sous l'eau. C'est un objectif, bon, à peu près 4X, là, 25-100 mm, avec une ouverture de F2 à F4.9. Bon, c'est... Il y a un processeur TruePic 6 qui est pratique en photo sous-marine, bon, pour les couleurs, là, en faible éclairage. On parle d'un écran OLED à 610 000 points, ce qui est respectable aussi, là. Il y aura aussi un convertisseur fisheye disponible et un téléconvertisseur 1,7X, en plus d'un caisson étanche qui pourrait permettre d'aller jusqu'à 45 mètres sous l'eau. On parle d'un
assez
intéressant pour la plongée.
Ouais.
449 € disponible maintenant. Et aux États-Unis, on parle de 380 $ US.
Pas si mal. Donc, pas si mal. Ouais. La principale chose que l'Olympus doit améliorer, c'est ses noms. Parce que vraiment, là, tu l'as mentionné tout à l'heure, là, j'ai aucune idée c'est quoi.
C'est le TG-2 IHS. Donc, c'est ça.
Ouais, c'est moi, en tout cas.
Du côté de Fujifilm, on a le X20 qui succède au X10 que tu as eu la chance de tester, Christian.
Oui.
On parle d'un capteur 2/3 de pouce X-Trans. Un autofocus à 6 centièmes de seconde, ce qui est très intéressant. Bon, vidéo 1080p à 60 images seconde, ça commence à arriver dans plusieurs boîtiers.
C'est pas mal rendu fréquent maintenant.
Et il y a une entrée micro, ce qui est intéressant. On parle de 600 $ américains en mars pour la disponibilité.
Et moi, c'est celle que j'ai spotée, moi, c'est la nouvelle X100S,
oui.
Qui est le même modèle que celle qui m'a fait tant craqué l'année passée, mais avec une des choses améliorées les plus, c'est-à-dire un autofocus ultra rapide comme celui que tu viens de dire.
Je crois que c'est 5 millisecondes ou 6 millisecondes, c'est très
bon,
rapide.
Bon, comme c'est toujours la publicité, c'est l'autofocus le plus rapide au monde, mais j'ai vu une vidéo sur Internet, la personne prenant une photo avec l'autofocus, et je dois avouer par contre que c'est extrêmement rapide.
Oui, rendu à ces vitesses-là, 5 centièmes de seconde, c'est très, très rapide. Là.
C'était un de ses principaux défauts, puis vraiment, Fujifilm ont fait beaucoup de travail là-dessus.
Mm-hmm. Du côté de Canon, on a le Mignon PowerShot N, qui est un tout petit appareil qui... Ça a l'air d'une caméra Instagram,
Ouais,
si
ça n'a même pas l'air d'un appareil photo, honnêtement. C'est bizarre. Je pensais que c'était un gadget étrange quand je l'ai vu.
C'est un appareil presque carré plutôt que rectangulaire là, au niveau du boîtier. Puis l'écran à l'arrière peut pivoter. En tout cas, ça a l'air mignon comme appareil. Mais côté caractéristique, bon, tu vois, on parle d'un capteur CMOS rétroéclairé. Et un truc très intéressant, c'est qu'il capture les 4 secondes précédant la prise d'une photo en format 720p pour faire un récapitulatif de la journée. Donc, toutes les photos qu'on a prises, on a un 4 secondes avant le déclenchement.
Okay.
Puis on peut faire un peu comme Light, l'application oui, dont on t'a parlé il y a quelques épisodes.
Oui.
On peut faire un montage vidéo des secondes qui précèdent chacune des prises d'images.
C'est
donc,
le fun comme approche.
Oui, c'est intéressant.
C'est vraiment différent,
Et bon, on parle c'est du Wi-Fi intégré, etc., pour le partage instantané. Et quand il n'y a pas de connexion Wi-Fi disponible, le partage se fait instantanément quand une connexion est établie.
Ah.
On parle d'environ 300$ US. Du côté de Panasonic, on a le Lumix DMC XS1. Panasonic aussi qui a des noms intéressants.
Ouais,
mais bon, c'est simple. Panasonic, la plupart des appareils, en tout cas une grosse gamme qui fait partie de la famille Lumix et qui commence tous par DMC. Donc souvent, on va omettre le DMC et parler seulement du XS1 dans ce cas-là. Ça, c'est un nouveau type d'appareil, nouvelle gamme. 14 mm d'épaisseur le boîtier, donc c'est tout petit, un beau look, un objectif 24 à 120 mm, donc 5x pour le zoom, un capteur 16 mégapixels, un écran 2,7 pouces et mode panoramique par balayage, un paquet de trucs du genre, donc ça semble intéressant de ce côté-là. Ensuite, il y a Sony qui nous présente le CyberShot H200. On parle d'un zoom 26x. Attention à la vibration, le mouvement, le flou de mouvement à cette distance-là.
Ouais.
On a un capteur de 20,1 mégapixels, de la vidéo HD 720p, un écran de 3 pouces. Bon, c'est tout à fait standard, mais il est alimenté par 4 piles AA, 4 piles 2A. Donc, ça peut être pratique dans le sens que quand les piles sont à plat, on peut s'en procurer n'importe où puis se dépanner avec ça, mais évidemment des piles...
La tendance fait qu'ils ont tendance à moins durer, par
exemple.
C'est ça que j'aime moins.
C'est ça. La durée est peut-être moins longue, mais ça coûte peut-être moins cher en pile extra, en pile de remplacement pour se dépanner.
c'est pratique. Ben, c'est un peu comme mon battery grip où j'ai un adaptateur pour mettre des batteries. J'ai jamais utilisé. Là, je pense que ça en prend 8, là, mais c'est comme... Ça peut servir, mais j'aime mieux les batteries rechargeables, les battery packs.
Format propriétaire.
Oui, personnellement.
Oui, absolument. Dans les caméras, justement, les appareils comme le 7D, 60D qu'on utilise, on parle de, je sais pas moi, 500-600 clichés avant que la pile...
Je me rappelle pas, mais
Ça dure longtemps.
Moi, quand je mets mes deux batteries, c'est 1600-1700 que je fais.
Donc, on peut parler peut-être de 7-800 à ce moment-là. Et finalement, le Samsung NX300, appareil très intéressant, et petit scoop, on devrait l'avoir dans... Ben là, je dirais peut-être quelques épisodes, là, ça sera pas tout de suite, parce qu'avant, on va avoir un autre appareil Samsung... dont on vous parlera un peu plus tard. Le NX300 a un objectif de 45 mm fixe à ouverture 1.8 et peut faire des photos 2D et 3D avec un seul objectif. Donc, c'est un procédé. J'ai aucune idée. J'ai pas les détails sur ce procédé-là.
Ah, ça me rend curieux.
Ensuite, le problème avec la 3D, c'est toujours après pour voir
le
re-regarder.
Ouais.
C'est... En tout cas, ça prend le téléviseur ou ça prend...
Faut que tu prêtes tes lunettes à quelqu'un.
C'est ça.
Tu pourrais le regarder sur ton Nintendo 3DS.
Oui, c'est ça, comme on avait dit. On parle là-dessus d'un capteur de 20,3 mégapixels. Ce qui est intéressant, une grande plage ISO, 100 à 25600.
Restera
à évaluer jusqu'à... quelle hauteur d'ISO, là,
avant
quelle
que
valeur
ça commence
d'ISO.
À faire du bruit.
Ça sera à voir. Mode rafale 9 images secondes, donc intéressant. Et un système autofocus hybride qui peut aller, qui permet d'aller jusqu'à 1/6 millième de seconde, ce qui est quand même rapide, parce que d'habitude, je crois que c'est 1/4 millième sur la plupart des boîtiers. Là. Donc, puis un écran tactile de 3,3 pouces, donc un petit peu plus grand que la plupart des écrans là, qui sont 3 pouces habituellement. Donc, évidemment...
Proposition intrigante, disons.
Oui, ça sera à voir. Et comme je disais, j'ai vu à peu près une trentaine facilement là, de modèles d'appareils photo et caméscopes qui ont été annoncés.
C'est débile. Incroyable. Il y en avait beaucoup. Ouais.
Donc, ça conclut ce petit segment sur les annonces de ce début d'année. On va aborder maintenant la controverse qu'il y a eu en décembre dernier autour d'Instagram qui avait changé ses conditions d'utilisation. Et Instagram qui, je crois, croyait faire ça en douce. Il disait que le 16 janvier, ou en tout cas au début du mois de janvier, 17 janvier, pardon, les conditions d'utilisation allaient être modifiées et avisaient les utilisateurs, croyant peut-être que personne n'allait les lire, mais c'est pas ce qui est arrivé.
Non, je pense qu'ils n'ont pas encore compris le concept de l'Internet, eux, vraiment. C'est surprenant, considérant que c'est Instagram, là, mais...
Et des réseaux sociaux.
Ah ouais, ça a fait le tour, en temps de le dire, pour ceux qui l'ont pas entendu. Ce qui, dans le fond, ce qui est la grosse controverse, c'est qu'ils se permettaient de prendre les clichés et de les vendre à quelqu'un d'autre, sans droit de regard de toi et sans rémunération. Les chances que ça soit arrivé, honnêtement, sont faibles. On s'en cachera pas personne, là. Ouais. Il aurait pas arrivé si souvent que ça. Mais c'est vrai que ça peut être fâchant.
En fait, ce qu'ils voulaient se permettre, c'est, admettons, de faire une compilation d'images ou utiliser certaines images, une compagnie qui fait de la bière ou un bar aurait pu utiliser des photographies prises dans ce bar-là ou avec la marque de bière. Et faire une compilation d'images en disant « Voyez, les gens aiment notre bière », des trucs du genre. Mm. Donc, c'est ce qui...
Il y a de quoi s'insurger. Là.
Ben oui, parce que les photos sont utilisées sans permission, sans autorisation.
Oui.
Et sans rémunération, à la limite.
Tout à fait, ouais.
Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, je veux dire, en tout cas, sans vouloir être plate, pour avoir regardé les comptes Instagram de beaucoup de monde, c'est pas les photos de chats qui vont changer grand-chose.
Non, t'sais. Ni les photos de nourriture, de repas.
C'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est toujours ce côté-là. Tu sais, je suis pas un défenseur du fait que... C'est vrai, on devrait être payé pour qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça. Mais en même temps, la majorité du monde, il y avait rien à craindre. Il y avait pas de problème.
Non, absolument.
On voit qu'il y a eu quand même une grosse exode parce qu'il y a eu, d'après les chiffres, il y aurait 25% de moins de monde sur Instagram, dont moi. Mais moi, c'est parce que je l'utilisais même pas honnêtement.
Aussi,
fait que j'ai fait, bah, regarde, je vais le fermer puis c'est tout, là. C'est pas plus grave qu'il faut, là. Mais en tout cas, je sais pas. C'est toujours la même chose, là. Comme je disais, c'est-tu vraiment la fin du monde? Je sais pas. Parce que quelqu'un qui veut vraiment utiliser vos photos va les prendre pareil. Honnêtement, là, on s'en cachera pas.
De toute façon, on parle d'un service gratuit.
Eh oui,
et à ce moment-là, quand il y a quelque chose de gratuit sur Internet, à quoi, sauf notre podcast, évidemment.
Oui, bien sûr.
À quoi est-ce qu'on est en droit de s'attendre de ce que les entreprises vont faire de nos données, de nos photos, de...
Si tu payes, tu sais, c'est comme moi, je paye pour Flickr, je m'attends à ce que là, non, il soit pas réutilisé si je décide qu'il soit pas, parce que c'est tu ça. Peux décider de le faire.
Oui.
Mais, en tout cas, je sais pas.
T'as-tu un compte Instagram, toi, par exemple?
Moi, je m'en ai installé un, mais j'ai pris une photo.
Ah, t'as une fois plus de photos que moi, j'avais. J'avais vraiment zéro, moi.
Mais non, moi, je n'utilise pas vraiment Instagram parce que je suis vraiment un photographe qui utilise Photoshop pour toucher ses photos.
Mm-hmm.
Puis moi, je suis de la philosophie, tu sais, je sais qu'il y en a qui vont dire que ne pas retoucher sa photo, c'est mieux. Mais moi, je suis vraiment de la philosophie qu'il faut retoucher pour faire ressortir tous les détails.
Oh,
puis...
Oui.
Je commence à être vraiment malade de voir tout le temps les mêmes petites de retouches, qu'on sait c'est quoi le plugin exact qui a été pris, qu'on est là. Ben, gars, si vous n'êtes pas capable d'en faire, OK, on peut en faire avec Instagram, mais c'est pas bon. Sérieusement, là, c'est pas beau.
Qu'est-ce que t'as contre le hipster qui prend en photo la banane qu'il mange pour déjeuner avec un beau petit look avec son filtre là, sur Instagram?
Ça ajoute rien. C'est le but de retoucher la photo, c'est d'ajouter quelque chose pour la rendre plus intéressante. Mais si, par exemple, je mange une poutine puis que je veux faire une recherche sur la poutine et où la meilleure et la plus belle poutine au Québec...
Ben, filtre ou pas filtre, ça te rajoute rien.
Exactement.
Ça peut la rendre plus appétissante, peut-être.
T'sais,
en général, les filtres, ça n'a pas cet effet-là, honnêtement.
Non.
Et à mes yeux, à moi, une poutine sera jamais plus appétissante, avec ou sans filtre. Donc...
Non, exactement.
Il y a ça.
Tu sais, les filtres, lorsqu'on rajoute des filtres pour ajouter de la couleur, c'est par exemple pour du fashion, pour du mariage ou pour de l'horreur, ça sert à ajouter une intensité qu'il n'y aurait pas au départ.
Mm-hmm.
Ajouter une intensité à un plat, ben, il faut le faire, là.
Mm.
Ou ben, moi, je suis couché sur mon couch, puis là, ben, j'ai rien à faire, fait que je me prends en photo Instagram, regardez-moi avec un petit plugin vieillot. Hey, t'en as pris un coup de vieux, tu sais.
Mais tu parlais justement qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne doit pas retoucher à ces photos. Moi, je pense qu'il y a peut-être une portion de ces gens-là qui font semblant qu'ils ne retouchent pas à leurs photos pour dire qu'ils produisent peut-être des meilleures photos que d'autres. Mais les gens avant, même dans les chambres noires, retouchaient à leurs photos. Ils changeaient l'exposition et ils pouvaient faire un paquet de trucs quand même.
Moi, ma seule... Je dirais que mon seul... comment je pourrais dire? Mon seul problème éthique, c'est quand on change la forme de quelque chose. Mm-hmm. Exemple, faire disparaître plusieurs livres à quelqu'un ou quelque chose de même. Oui, ou, tu sais, grossir les seins. Ça, j'ai plus de misère avec ça, personnellement. C'est moi, là. Mais si c'est pour enlever un bouton qui est sur le visage, ça me stresse pas, là. Mm-hmm. Je vous ai déjà dit que j'ai enlevé toutes les vergetures du ventre de ma blonde parce que, bon, regarde, on en avait. Non, mais je le cache pas, puis elle sait. Oh, pis, ouais. Mais, tu sais, je veux dire, ça, elle en avait beaucoup, puis ça faisait plus joli sans... Elle était consciente, c'est elle qui me l'a demandé. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Ça dénature pas la photo non plus.
Non.
C'est ça l'affaire.
Ben, puis j'avais une photo, moi, où j'avais pris une locomotive de train. Puis il y avait quelqu'un, on voyait juste la tête ou à peu près, près d'une clôture. Puis je l'ai effacé, j'ai retouché pour enlever la personne. Mais c'est ça, c'était un élément que je voulais pas dans ma photo, mais c'était une petite retouche. J'ai pas fait disparaître le corps au complet, on le voyait pas, c'était seulement la tête de la personne.
Non, puis ça, tu vois, je trouve que c'est déjà différent, parce que là, on comme je te dis, ça dénature pas nécessairement.
Non, c'est
ça. Ça fait juste, tu t'améliores la photo. Je lisais récemment, il y a quelqu'un qui a gagné un concours, c'est une National Geographic, je me rappelle pas, ou une revue quelconque, puis la personne savait pas qu'on n'avait pas le droit de faire aucune modification, et il avait enlevé un sac de plastique sur la photo. C'est tout, là. Je pourrais vous montrer la photo, tu le vois quasiment pas, le sac de plastique. Ça le gossait, il aurait pu juste couper la photo différemment, puis il aurait été correct. Il a décidé de l'enlever et il a perdu. À cause de ça, il a été ramené en arrière. Mais tu sais.
Ben oui.
Ça dépend, là. Il faut juste.
Il n'a pas respecté les règles.
Il n'a pas respecté les règles.
Mais les plus belles photos, là, sérieusement, mettons, qu'on fait du studio, ben, qu'on essaye de contrôler au maximum l'image, puis pop, on s'entend que si on fait une photographie d'un éléphant dans la nature, là, on va peut-être moins toucher. Mais si on les fait avec du monde, c'est très rare first. Et si on est dans des milieux contrôlés, intérieur d'une maison, et qu'on veut mettre le bon éclairage, j'en ai connu quelques... Tu sais, on s'entend connu très rapidement des photographes qui n'en font pas. Mais lorsqu'on parle de leur technique de lumière avec toutes les flashs, ils peuvent passer jusqu'à 5 heures juste pour installer la lumière.
Oui, j'en doute pas, c'est sûr et certain.
Ils font de la pré-production plutôt que de la post-production.
Exactement.
Ouais, le travail est là quand même.
Tout à fait. Moi, comme je te dis, j'ai pas de problème avec ça. Tout dépend de qu'est-ce que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu veux. Si tu veux faire une photo qui ressemble à quelque chose que tu vois dans un magazine, t'auras pas le choix. C'est sûr et certain que tu vas être obligé de faire de la post-production. Il y a aucun doute là-dessus. Si c'est pas ça ton but, là, tout dépend.
Puis aussi, lorsqu'on fait de la photo en studio, on se rend compte qu'on voit beaucoup plus de défauts dans l'image.
Mm-hmm.
Lorsqu'on se regarde, on voit pas toute la pigmentation de la peau que l'appareil va capter.
Ouais.
Surtout qu'on va être suréclairé souvent. Fait que toutes les imperfections vont ressortir. Fait que là, la personne va se regarder. Généralement, on va faire « Eh, je suis bien laid, je suis affreux. » Mais c'est pas parce qu'on est de même. C'est qu'on s'en rend même pas compte. On est de même, mais on s'en rend pas compte. Fait que faire une petite retouche juste pour diminuer les imperfections. Tu sais, juste sur la peau, on a des teintes de rouge, on a des teintes de beige, on a des teintes plus pâles, plus foncées, mais c'est pas soft. C'est vraiment un peu... On peut vraiment picoter, c'est vraiment intense. Là, lorsqu'on regarde ça, on fait « Oh my God! » Juste avoir un softness sur le niveau du skin ou ben, de la peau, ça fait toute la différence. La personne, automatiquement, se sent valorisée parce que le but, lorsqu'on fait de la photo, c'est pas de montrer une laideur, à moins qu'on fait une photo d'horreur, là.
Ben, ça dépend. Pour une photo de dur, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, tu peux te promener, puis c'est le visage, c'est les rides, c'est les choses que tu veux. Ça dépend des... Comme je dis, ça dépend du but que tu veux atteindre.
Tu peux trouver un sujet qui est très ridé, mais que c'est vraiment beau, là, de voir les rides du visage.
Comme
mais...
je dis, ça dépend du but que tu veux atteindre.
Ouais, exactement. Puis tu sais, lorsqu'on parle de retouche, on pense souvent que c'est juste les imperfections qu'on retouche, mais aussi la lumière, comment est-ce qu'elle se reflète sur la peau, c'est jamais parfait. À part d'être vraiment, d'avoir eu des dizaines et des quinzaines d'années d'expérience en photo, et de la lumière, surtout parce qu'on oublie souvent que c'est juste la lumière, ben, c'est très difficile d'atteindre ce qu'on veut, fait qu'on va tricher en post-production notre éclairage, on va rajouter un petit highlight, on va diminuer un autre, on va rajouter ici, on va faire ça, fait que tant qu'à prendre Instagram, je préfère bien plus le faire vraiment, tu sais. C'est un logiciel qui fait quelque chose de rapide, mais est-ce que c'est beau?
Non. Ben, c'est ça. Non, Instagram, c'est l'instantanéité, justement, ça le dit dans le nom. Donc, c'est de partager des moments avec ses amis. C'est, en tout cas, quelqu'un qui utilisent Instagram de façon sérieuse auraient peut-être intérêt à commencer à faire vraiment de la photo, justement, avec un peu de post-production.
Puis de toute façon, là, entendons-nous, là, on va mettre un petit halt ici. On parle de photos de téléphone cellulaire aussi. Il faut quand même pas oublier.
Mais c'est pas le but. On en parlait. Ça va venir, la qualité dans les appareils, dans les téléphones.
C'est sûr.
De toute façon, tu sais, ça dépend comment qu'on perçoit un bon photographe. T'sais.
Oh oui.
Ouais.
Une bonne photo, ça peut être sur n'importe quel support, tant qu'à moi. T'sais.
Ah, là-dessus, je suis d'accord. On en a déjà parlé, c'est sûr et certain. Encore une fois, tout dépend de ce que tu veux atteindre, ce que tu veux, tu veux comme finalité. Tout est possible. Tu peux prendre une photo moyenne avec un téléphone, tu peux passer par Photoshop, puis tout à coup, ta photo va devenir écœurante.
S'il y a une histoire
ça dépend.
Dans ta photo.
Oui, c'est ça. Tu racontes une histoire, le cadrage est bon, le sujet est là...
Ouais.
Pourquoi pas, tu sais.
Ouais,
c'est juste que...
Mais ça, c'est un autre débat.
C'est juste que Instagram, à la base, apportera pas une qualité à l'image parce que c'est de la basse résolution. Mais bon, au final, que ce soit Instagram ou un autre service, quand c'est gratuit, que ce soit Facebook ou Google+, ou n'importe quel autre, si vous voulez pas que votre photo soit utilisée à d'autres fins ou quoi que ce soit... Il ne faut pas la partager au départ, tout simplement.
Voilà, on ne la met pas sur Internet.
Vous la gardez pour vous, vous la montrez aux gens de votre entourage, vos parents, vos amis, puis ça se termine là, puis il n'y aura jamais de problème.
Voilà.
Donc, voilà, ça conclut ce petit segment. On va, parlant de conclusion, on va conclure l'épisode avec le micro Sennheiser que... Ben en fait, que Sennheiser nous a si gracieusement prêté.
Oui, en fait, pour ceux qui font de la vidéo avec leur appareil DSLR, Sennheiser a conçu un micro, en fait, qui est déjà utilisé du côté professionnel vidéo aussi. On parle des plus grosses caméras. C'est le MKE600. C'est un micro qu'on appelle directionnel. Donc, il capte le son qui est en avant. Principalement. Il va en capter un petit peu sur les côtés, mais c'est principalement fait pour capter le son en avant, puis il va aller chercher où on le pointe. C'est très pratique quand on fait de la vidéo à l'extérieur, disons, quand il y a des bruits environnants, sur le bord d'une autoroute ou quelque chose comme ça, ben on peut pointer le micro sur quelqu'un qui fait plutôt face à une autoroute,
qui va être à
l'opposé. Le champ arrière de lui.
Ouais, c'est ça.
Donc, on va atténuer beaucoup les bruits derrière. Bon. C'est compliqué un peu mon explication, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire.
On fera un petit dessin dans les notes d'épisode.
c'est bon. Donc, comme je disais, ça vise un marché des caméras DSLR surtout. Pourquoi je dis surtout? Parce que du côté professionnel, on pourrait s'en servir, mais on s'attend à une meilleure qualité encore que ce que ce micro-là peut faire. On parle de micros qui coûtent 400$. L'équivalent en professionnel, télé, je parle... au cinéma, on parle de 2000$ pour le même micro dans la même marque. Là,
ah oui, OK.
Mais pour faire du DSLR, pour le tournage de semi-professionnel, ça fait amplement l'affaire. Pour le prix, il est vraiment très bien. Le type de connecteur qu'on utilise sur ce micro-là, ça s'appelle XLR. Pour ceux qui connaissent plus ou moins ça, c'est un petit connecteur à 3 branches. Puis vous avez sûrement déjà vu ça avec quelqu'un qui fait du son.
Problème, c'est que tu n'as pas de caméra DSLR qui ont des connecteurs XLR.
Et voilà ce qui arrive. Parce que Sennheiser nous a envoyé le micro avec la version prise XLR sans le fil.
Sans l'adaptateur.
L'adaptateur qui nous envoie à la fiche 1/8 qui est 1/8 de pouce, qui est la fiche d'écouteur là, normale qu'on a sur nos téléphones. Puis tout ça. Fait que je me suis dit, bon, je pourrais pas le tester avec ma 7D. Par contre, travaillant dans le milieu de la télévision, ben j'en ai parlé à des soundmen, à des preneurs de son qui l'utilisent de temps en temps, puis qui m'ont dit non, c'est vraiment un excellent micro, pas de problème avec ça. J'aurais bien aimé ça le tester, mais j'ai pas pu. Les accessoires qui viennent avec ce micro-là, il y en a deux. Il y a une mousse qui va couvrir les bruits de vent. Disons qu'on est à l'extérieur puis c'est très bruyant. Juste le fait de mettre une petite mousse sur le micro va couper les basses fréquences pas mal.
Okay.
Tout ce qui est vent qui rentre dans la capsule, ben ça va couper ça beaucoup. Il y a aussi une petite plaque de montage pour mettre sur le... Je sais pas comment traduire ça. C'est le hot shoe sur une caméra. L'endroit où on installe le flash sur notre caméra. Bon, mais le micro va aller s'installer sur ça. Donc, ça va être une fixation assez pratique, disons.
Assez utile, parfait.
Oui, c'est ça. les fonctions du micro, il y a une fonction très, très pratique, encore une fois. Une fonction pour couper les basses fréquences pour le vent encore. Parce que même avec une mousse sur le micro, s'il vente très fort, ça peut quand même passer au travers du micro. Puis on va entendre le... Voilà, merci pour les effets spéciaux. Donc, il y a un petit switch qui coupe tout ce qui est en bas de 100 Hz. Tout ce qui est très basse fréquence, le vent fait partie de ça quand ça rentre dans le micro. C'est alimenté par une petite batterie AA. Puis, curieusement, c'est assez pour faire durer ça 150 heures.
Oh!
En tout cas, ce qu'on dit.
Jusqu'à, oui. Parce qu'on sait que les autonomies annoncées sont pas toujours le reflet de la réalité.
Ouais, bon, mais tu sais ça. Disons qu'on garde une petite
mais je parle pas de Sennheiser. Mon petit gadget que j'ai ici, mon Asus Tai Chi, a une autonomie annoncée de 5 heures et j'ai jamais... je me suis rendu une fois à 4 heures.
Proche. Yesh.
Il y a un indicateur
t'es un gros power user là. Oui, tu l'utilises trop, c'est ça le problème. 5 heures, c'est quand ça. Tu y touches pas.
Ah, c'est ça, stand by time. Il y a un petit indicateur de batterie faible aussi pour dire bon ben t'arrives au bout de tes 100,
ça fait 145 heures.
C'est ça. Ouais.
Non mais c'est bien.
Bon, il y a la version avec l'adaptateur à 1.8, ben ça se vend 429$. C'est 29$ de plus pour avoir le petit kit DSLR officiel pour ce micro-là.
Donc, la différence de 29$, c'est pour l'adaptateur XLR à 1/8 de pouce.
Exactement.
Okay.
Ouais. J'ai vérifié sur un site que j'adore qui s'appelle B&H.
Oui,
on a photo. Déjà parlé d'ailleurs dans une émission passée. Je pourrais pas dire quel numéro, mais c'est un magasin. Ah, l'émission qu'on parlait des achats en ligne.
Oui, l'épisode 2, je crois.
Ah oui, bon.
Oui, mais... ça fait aussi longtemps que ça.
OK, bon. Donc, ça résume pas mal les fonctions de ce micro-là. Moi, personnellement, m'équiper, j'achèterais ça. C'est, c'est vraiment un bon petit micro, pas cher pour ce qu'il donne.
Mm-hmm.
Puis franchement, ça donne une méchante différence avec le son du micro intégré dans le boîtier par rapport à brancher ça.
Mm-hmm.
On coupe vraiment, on augmente en qualité sonore, là, ça fait aucun doute. C'est vraiment pas superflu comme achat à avoir.
Parfait. Question, écoute, j'ai peut-être manqué l'information, mais c'est un son stéréo ou mono?
Non, c'est mono.
C'est mono, hein, ouais. C'est ça? Parce que
c'est un micro pour la voix.
Okay.
Ça, c'est vrai, c'est bon de le mentionner. C'est pas pour faire de la captation sonore, c'est, je veux dire musicale. C'est vraiment pour la voix. Ça a été conçu pour aller chercher les fréquences de la voix, principalement.
Parfait. Bon, ben excellent. Et ça conclut notre épisode. Bien, merci Mathieu d'avoir été avec nous et nous avoir expliqué et appris un paquet de trucs.
Merci à vous.
Puis merci Christian.
Merci Stéphane.
Merci François.
On se revoit au prochain podcast.
Absolument. Et pour nous rejoindre, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire à podcast@objectifnumérique.com et sur les réseaux sociaux, évidemment Twitter, au numérique, et sur Facebook et Google+, Objectif Numérique. Vous cherchez ça et puis vous tombez sur nos pages. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.